Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h02 sur Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au sommaire ce soir, Angers Nantes Opéra vous sort le grand jeu pour cette nouvelle saison 2024-2025 qui s'annonce. Il y a quelques jours, Alain Suran donnait une conférence de presse pour présenter la nouvelle saison et on a eu l'occasion d'échanger avec lui. Alors ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Une interview enregistrée le 20 juin dernier, ça fait il y a quelques jours déjà, mais l'actualité politique a chamboulé hein, tout notre calendrier, vous vous en doutez. Vous allez entendre nos questions, mais également les questions d'une collègue journaliste à Angers Télé, Justine. Une interview réalisée à l'occasion d'une conférence de presse, donc dans la brasserie du théâtre, place du Ralliement à Angers.
Nous sommes actuellement en face du Grand Théâtre, là où est hébergé Angers Nantes Opéra pour la majeure partie de ses représentations au cours de l'année. On vient d'assister à la conférence de presse pour l'annonce de la saison 2024-2025 et nous sommes avec Alain Suran pour le pédalo. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
À quoi va ressembler la saison 2024-2025 à l'Opéra d'Angers Nantes?
Alors la saison, c'est une saison sous le signe de la diversité. C'est toujours notre souci de faire une proposition très ouverte où chacun peut retrouver des choses qu'il aime déjà ou des choses qu'il a envie de découvrir. C'est le principe et donc nous avons des ouvrages de différentes époques, hein, depuis les débuts de l'opéra jusqu'à nos jours, avec notamment un opéra baroque qui est un oratorio plutôt, c'est une histoire sacrée mise en musique comme un opéra de Michelangelo Falvetti qui s'appelle Il n'a beaucoup. Donc c'est un épisode de l'histoire sainte avec ce célèbre roi de Babylone qui avait asservi les Israélites. Une très très belle partition, très proche dans l'esprit de Monteverdi, du Monteverdi, du couronnement de Poppée et du retour d'Ulysse. Donc ça va être, pour les amoureux de musique baroque, d'instruments anciens, c'est un beau rendez-vous que nous proposons et qui se passera au Théâtre du Quai, avec la collaboration donc des Amis du Quai. Et puis, nous avons deux grands ouvrages de répertoire, avec d'abord Traviata, qui va être donné au mois de mars pour deux représentations. Une Traviata mise en scène par Silvia Paoli avec des artistes qui viennent de l'Europe entière. Nos deux Traviatas seront en alternance italienne et croate. Et c'est Laurent Campellone qui dirigera et Silvia Paoli qui mettra en scène. Silvia Paoli qui avait déjà mis en scène Tosca. Le deuxième grand titre, qui sera lui en fin de saison, c'est La Flûte Enchantée. La Flûte Enchantée, c'est l'opéra de Mozart, très célèbre. Un ouvrage avec plein de résonances qu'il faut explorer, c'est Mathieu Bauer qui va les explorer, ces résonances de la thématique un peu multiple de cet ouvrage populaire qui avait été créé dans un quartier populaire de Vienne. C'est une œuvre pour tous, hein. C'est vraiment un opéra à découvrir en famille avec une mise en situation dans une fête foraine qui risque d'être fort intéressante. Au pupitre de l'Orchestre Symphonique de Bretagne, de l'Orchestre National de Bretagne, nous aurons son nouveau directeur musical qui a moins de 30 ans, qui s'appelle Nicolas Ellis, qui est un musicien formidable et un amoureux de la musique de Mozart. Donc entre Mathieu Bauer et lui, nous sommes à peu près certains d'avoir une vision qui sera à la fois fidèle et originale, fidèle à Mozart et original dans son propos. Et puis, grand moment pour nous, un moment de création avec un opéra jazz et bretonnant de Jean-Marie Machado, donc musicien de jazz qui souvent travaille sous l'influence des musiques latino, si on peut dire, mais qui cette fois-ci s'engage dans une relation, je dirais, de cœur avec la musique bretonne pour un opéra qui se passe en Bretagne, dont l'action se situe à l'époque du premier conflit mondial et Avec une distribution qui mélange des chanteurs de jazz et de variété, des chanteurs bretons et des chanteurs lyriques. Donc quelque chose de très divers. Trois langues, le français, l'anglais, le breton. Voilà, un ouvrage à découvrir qui s'appelle « La falaise des lendemains ». Titre très poétique, à l'image d'ailleurs de ce qu'a voulu Jean-Marie Machado avec son librettiste Jean-Jacques Vidida.
Vous allez aussi avoir une grande partie de la programmation qui est liée à l'opéra, mais de manière transversale avec d'autres genres musicaux. Il va y avoir, donc vous venez d'en parler, cette proposition bretonnante, mais aussi du flamenco, mais aussi des chants qui viennent d'ici et d'ailleurs, notamment d'Iran. Comment est-ce qu'on fait se rencontrer les différentes cultures à travers l'opéra ?
Je crois que quand on aime l'opéra, on aime la voix. Et c'est vrai que toute notre programmation, elle est centrée sur la voix, ce qui est bien normal, et centrée aussi sur la question de l'émotion. Quelle émotion provoque en nous la voix chantée ? Quand vous interrogez un adolescent, que vous lui demandez « quel est ton artiste préféré ?», il vous sort forcément le nom d'un chanteur ou d'une chanteuse. Les chanteurs, le chant, la voix, c'est quelque chose de très important dans notre culture et c'est quelque chose qui traverse toutes les générations. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que nous avons envie, à l'opéra, de traiter la voix un peu dans toutes ses résonances, dans toutes ses valeurs culturelles, avec une présence des voix du monde, des voix qui viennent de loin. Nous aurons cette année une artiste éthiopienne, nous aurons les Iraniens de la famille Shemirani, et puis deux chanteurs de flamenco, deux chanteurs masculins de flamenco. Donc quelque chose qui ouvre l'éventail, qui ouvre le spectre, et qui nous permet de vibrer, c'est-à-dire de sentir que des choses que même nous ne connaissons pas si bien ou qui nous sont étrangères, qui sont même étranges pour nous, finalement nous touchent et nous émeuvent sans qu'on comprenne très bien. C'est exactement comme quand la Traviata lance son air d'adieu au passé et où soudain on sent les larmes venir à nos yeux. Bah, ça existe aussi quand ces chanteurs de flamenco se mettent à pleurer, chantent l'exaspération de leur douleur. Voilà, il y a quelque chose de magique qui se passe toujours avec la voix. Et c'est ça que nous proposons en fait au public angevin. C'est cette éternelle interrogation sur nous-mêmes que nous renvoient les chanteurs, qu'ils soient des chanteurs d'opéra ou des chanteurs venus d'ailleurs. Tout ça résonnant avec nos propres voix, parce que pourquoi la voix nous touche ? C'est parce que nous avons tous une voix, que bien sûr nous écoutons, à l'opéra nous regardons aussi, mais en fait il y a quelque chose d'une résonance beaucoup plus générale qui part du chanteur qui est sur scène et qui vient nous toucher, et qui nous touche parce que nous avons aussi cet organe de la voix, et c'est un peu l'esprit dans lequel nous travaillons la relation avec le public, l'action culturelle que nous menons auprès de publics très divers. L'idée, c'est de faire prendre conscience à ces publics que voilà, la voix est quelque chose qui nous unit tous et qui nous fait vivre des expériences très très proche. Donc l'une des idées, c'est celle de nos concerts Ça va mieux en le chantant, où nous incitons le public à chanter avec le chœur d'Angers Nantes Opéra, avec les solistes, avec la maîtrise des Pays de la Loire, pour unir les voix, parce que il n'y a rien de plus beau tout de même que le mot chorale, qui veut dire c'est le chœur, hein, c'est tout ce qui chante et parle ensemble et donne du sens à notre amour de la voix.
Donc, comme vous venez de le dire, vous menez des actions pour rendre l'opéra un peu plus accessible à certaines catégories de personnes, pour élargir un peu votre public. Est-ce que vous menez d'autres actions, par exemple, de faire venir des groupes scolaires de certains quartiers plus populaires ?
Alors, nous travaillons sur les publics de primaires, de collégiens, de lycéens. Alors, parfois avec des invitations spéciales sur des représentations, parfois avec des concerts qui leur sont spécialement dédiés. La saison prochaine, il y aura plusieurs concerts scolaires avec un spectacle sur Mozart qui est créé par une de nos artistes en résidence, Marie-Bénédicte Souquet. Donc nous avons des jeunes qui vont assister à ce spectacle à Avrillé, où il sera créé, puis aussi à la salle Chanzy à Angers. Donc c'est l'occasion de faire venir vers nous des publics et évidemment souvent d'aller d'abord à leur rencontre dans les quartiers. Nous avons notamment une résidence de Marie-Bénédicte Souquet qui se passe dans le quartier de Montplaisir par exemple. Donc nous travaillons avec les quartiers prioritaires de manière très régulière, avec d'autres communes d'Angers-Loire Métropole aussi pour élargir notre périmètre, hein, puisque nous sommes désormais financés non plus par la ville d'Angers, mais par Angers-Loire Métropole, avec aussi des concerts spéciaux, comme celui que nous offrons pour les moins de 30 ans au début de saison sur le thème de Rhapsodie bohémienne. Voilà, un concert qui sera vraiment réservé aux moins de 30 ans, donc qui va permettre aussi de faire chanter des jeunes, puisque c'est un concert qui est dans la série des Ça va mieux en chantant. Un concert pour des scolaires avec les enfants de Mozart, un programme que nous montons avec la maîtrise des Pays de la Loire, des solistes, et qui va donner l'occasion aussi de rencontrer des publics scolaires. Donc il y a beaucoup d'actions. Nous avons aussi régulièrement des concerts du chœur dans diverses salles de la région. À la Cato, l'année dernière, c'était un concert très très sympathique. Et le chœur est un de nos ambassadeurs, justement, territorial, dans les quartiers aussi. On a un chef de chœur qui est très généreux, Xavier Ribès, et qui emmène le chœur dans des aventures comme des concerts en prison ou des concerts dans des centres hospitaliers, dans les quartiers, en plein air quand l'été est venu. Voilà, c'est plein d'occasions de nous découvrir, de découvrir ce que nous proposons, de découvrir la valeur artistique et culturelle d'une institution comme la nôtre, et ça c'est évidemment notre souci quotidien.
Vous avez beaucoup parlé des scolaires, vous avez parlé aussi un peu des publics étudiants. La question de Justine, c'était aussi peut-être par rapport au quartier populaire. En ce moment, on parle beaucoup des enjeux d'accès à la culture qui pourrait être menacée en cas d'arrivée au pouvoir du Rassemblement National, la disparition progressive des intermittents du spectacle qui pourrait mettre à mal le spectacle vivant. Comment faire pour rendre accessible la culture à toutes et tous, et notamment dans ces quartiers prioritaires de la ville, et notamment à Montplaisir, à La Rose, à Belbeil? Quelles sont les choses qu'Angénante Opéra met en place pour la saison 2024-2025 pour aller toucher ces publics?
Nous sommes signataires de la charte culture solidarité à Angers. C'est un engagement pour nous d'aller vers ces publics en permanence. Donc nous avons travaillé récemment plus à Montplaisir, mais nous avons aussi un historique dans le quartier de la Roseraie qui est très important. Donc nous allons à la rencontre de ces publics avec nos artistes. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre en avant la qualité des artistes, parce que rien n'est plus parlant que quand un artiste s'exprime au sujet de son art, et c'est ça qui compte pour nous, c'est-à-dire que la vérité de l'acte artistique qui est le nôtre, et c'est celui du chant en premier lieu évidemment, est quelque chose qui nous permet de toucher les publics. Nous avons aussi des actions avec les artisans qui travaillent pour nous, hein, les artisans des costumes, qui fabriquent les costumes, qui fabriquent les décors, et nous organisons, quand nous sommes en production, des rencontres avec des jeunes des quartiers qui viennent découvrir ces métiers du spectacle qui sont formidables. Il y a une féerie à l'opéra, il y a quelque chose de formidable qui se joue toujours. Et qu'il est intéressant de dévoiler, de montrer, ça crée aussi une forme de familiarité, d'appropriation de nos théâtres, de l'activité qui y est présentée. Et c'est ça qui compte aussi pour nous, c'est que on ne soit pas dans une attitude descendante, mais qu'on soit vraiment dans une participation à des moments de notre vie quotidienne pour les publics les plus divers, et à commencer par ceux qui peuvent considérer a priori que l'opéra n'est pas pour eux. Or moi, vous savez, je suis un convaincu, je sais que l'opéra est pour tout le monde, tous les compositeurs ont toujours écrit des opéras pour tout le monde, et c'est ça qu'il faut démontrer en permanence aux gens, et surtout ceux en effet qui se croient très éloignés de la culture, qui n'y croient pas tout à fait. Moi, je crois que tout ce que nous faisons va toujours dans ce sens. Il ne faut pas oublier non plus que les conditions tarifaires sont formidables. Quand vous avez moins de 30 ans, l'opéra, ça ne coûte rien. à Angers comme à Nantes. Et ça, c'est très important de le répéter, parce que le premier argument qui est sorti toujours, c'est « Ah oui, mais l'opéra, c'est cher ». Oui, l'opéra, ça coûte cher, mais pas au public. Dans nos villes, la place maximale est un peu au-dessus de 70 euros, mais vous avez plein de places à 5, 10, 15, 20 euros, avec une excellente visibilité, parce que nos théâtres sont des très beaux théâtres et vraiment des théâtres magnifiques. Et tout le monde peut venir. Ça, c'est la volonté des villes qui subventionnent Angers-Nantes Opéra, les villes de Nantes, la ville d'Angers, les deux métropoles, enfin, nous sommes désormais financés par les métropoles angevines et nantaises, et c'est une volonté de démocratie culturelle, plus que de démocratisation, c'est-à-dire l'opéra fait partie de la vie collective, il est abordable par tous. Et ça, c'est très important de le rappeler en permanence. Et évidemment, dès que je parle dans un média, j'insiste là-dessus, parce que il y a toute une opinion toute faite qui dit que l'opéra, c'est pas pour le peuple. Mais c'est complètement faux. L'opéra, c'est pour tout le monde. Et c'est un geste politique très fort de la part de nos villes de rendre l'opéra accessible à tous. Et voilà, dans le contexte politique actuel, c'est intéressant de le redire.
Là, on parle essentiellement donc de la saison à venir. Mais pour la saison qui vient de s'achever, donc 2023-2024, quel bilan pouvez-vous dresser ?
Alors, il y a toujours différents bilans à faire d'une saison qui vient de s'écouler. Le premier bilan, c'est public. Et c'est vrai qu'on a eu des grandes satisfactions. Désormais, les concerts, ça va mieux en le chantant, sont plein, archi plein. Donc c'est un très très bon signe. Ça veut dire que nous avons réussi notre pari d'amener à l'opéra des publics différents. C'est le public des concerts, ça va mieux en chantant, c'est une espèce de public idéal pour moi. C'est 7 à 87 ans, c'est les parents et les enfants, c'est les grands-parents et les petits-enfants, c'est plein de moins de 30 ans aussi qui viennent découvrir l'opéra. Donc c'est une image presque de la société qui se reflète dans nos publics, et ça, c'est extrêmement satisfaisant. On a aussi des vraies satisfactions quand on fait des ouvrages grand public et qui sont conçus et vus comme tels, et de voir qu'on finit par refuser du monde tellement ces spectacles sont plébiscités. Je pense La Chauve-Souris et Tosca ont été vraiment archi-combles. Donc c'est un bon signe, et ça veut dire que l'activité d'Angers-Nantes Opéra a vraiment trouvé sa place dans le paysage du spectacle vivant à Angers. Donc pour nous, c'est aussi très réconfortant. Après, il y a les réussites artistiques. Hein. C'est vrai que cette Tosca que nous avons présentée a beaucoup impressionné le public. Il y avait beaucoup de monde devant le grand écran installé sur la place du ralliement le 8 juin. C'est là aussi un autre moyen de rencontrer, j'allais dire, pas des publics, mais des habitants de la ville d'Angers, des contribuables angevins, qui peuvent venir voir comme ça, sur un grand écran, les belles choses qu'on fait dans un théâtre où ils n'ont pas l'habitude de rentrer, où ils n'ont pas forcément l'intention de rentrer. C'est vrai que quand on élève des enfants, les emmener voir un spectacle qui peut durer 3 heures, c'est un risque qu'on prend pas. Et c'est vrai que le public n'est pas assez présent chez nous. C'est un peu le public de ces parents, de ces familles, de ces parents qui sont en train d'élever des enfants et qui n'inscrivent pas l'opéra dans les loisirs collectifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose Ça va mieux en le chantant, parce qu'on les retrouve dans les concerts Ça va mieux en le chantant. Et des occasions comme l'opéra sur écran, c'est aussi le moyen de les retrouver, qu'ils viennent voir, qui viennent se rendre compte que ce qu'on fait dans ce grand théâtre d'Angers, c'est tout de même du spectacle magnifique, que l'argent du contribuable est bien employé.
J'ai l'impression que toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, tout va bien en Angers-Nantes Opéra. A priori, la crise qui touche, qui peut, en tout cas les difficultés qui peuvent toucher les différents autres opéras en France n'atteint pas vraiment Angers-Nantes Opéra. Vous le dites d'ailleurs dans un entretien à Gwen Froger dans votre plaquette. Les salles sont pleines, les étudiants viennent, il y a des tarifs préférentiels. C'est quoi la petite critique que vous pourriez vous faire à vous-même, les choses qui vous resteraient à améliorer, ou vous avez l'impression qu'il manque encore quelque chose ?
Première chose, l'année dernière, j'étais tout de même pas aussi positif. Hein. Les choses ont changé. C'est vrai qu'il y a eu un grand travail de conviction à faire auprès de nos financeurs, le ministère de la Culture, la région des Pays de la Loire, les deux métropoles de Nantes et d'Angers. Nous étions arrivés à une situation très difficile. Et cette année, eh bien, en 2024, nos financements repartent à la hausse et nous retrouvons un nouvel équilibre. Nous avons pu ajouter une bonne quinzaine de manifestations de plus par rapport à la saison précédente. C'est pour ça que, oui, j'ai un discours extrêmement positif sur la situation actuelle. Je sais que certains de mes confrères, hein, dans d'autres villes, dans d'autres maisons d'opéra, ont eu aussi des coups de pouce de la part de leur collectivité. Tout de même, dans l'ensemble, la situation s'améliore par rapport à ce qu'elle a été l'an dernier. Il y a encore des efforts à faire et c'est vrai qu'on n'en a jamais fini avec ces a priori sur un art élitiste, un art qui est toujours en train de chercher son public. Et je veux bien continuer l'autocritique là-dessus en disant que ben, on n'en a jamais fini avec cette volonté démocratique par rapport à l'opéra, que c'est un effort de chaque jour. Que c'est un effort qui est celui d'équipes entières. C'est-à-dire qu'une maison d'opéra comme la nôtre, c'est 100 salariés, c'est des gens qui travaillent à la technique, à l'artisanat pour la fabrication des décors et des costumes, des artistes, nous avons un chœur permanent à Angers-Nantes Opéra, et des équipes très importantes qui se dévouent à la relation au public. C'est une équipe évidemment essentielle aussi, parce que notre relation au public, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose qui doit être en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'acquis là-dessus, puisque les générations se renouvellent petit à petit, et il faut accompagner ce renouvellement de génération. Donc les efforts de dialogue avec le public sont des efforts toujours recommencés, mais au fond, qu'est-ce qu'on est heureux d'être dans ce dialogue? C'est aussi un beau métier que nous faisons, et moi, en tant que directeur d'opéra, je peux dire que je fais un des très beau métier d'aujourd'hui dans le domaine de la culture. C'est formidable de travailler pour une maison d'opéra.
Vous avez annoncé au cours de ce point presse votre départ en retraite qui sera effectif en janvier 2026. Donc sans forcément nous en dire sur votre successeur, comment vous préparez cette succession?
Alors c'est pas vraiment moi qui la prépare, ce sont plutôt les métropoles de Nantes et Angers, hein, qui ont veillé notamment à ce que le recrutement se fasse le plus tôt possible. Donc je pars dans un an et demi et mon successeur ou ma successeuse va être annoncé très 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 prochainement.
À l'heure où on diffusera probablement ces mots, on connaîtra d'ailleurs le nom de votre successeur, on pourra l'annoncer en début, en fin d'interview.
Oui, c'est pour l'instant encore sous embargo, donc je n'en parlerai pas. Surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette personne va avoir un an et demi pour préparer son arrivée. Les programmations d'opéra se font très longtemps en amont. Moi, je vais assurer jusqu'à la saison 25-26. Et pour la saison 26-27, il y a déjà des décisions à prendre sur certaines programmations, celles qui se prévoient le plus longtemps à l'avance. Donc ça va être un travail et je suis très reconnaissant aux tutelles d'avoir pris les bonnes décisions sur le timing du recrutement de ma succession. Moi, d'ici là, je vais assurer 25-26. Je partirai avant que cette saison soit achevée. C'est la personne qui me succédera, qui assurera la fin de ma dernière saison et qui va programmer les suivantes. On est dans le bon timing, il y a tout un travail à faire pour apprivoiser les équipes et pour tout le monde d'apprendre à travailler ensemble. C'est toujours évidemment des moments un peu marquants dans la vie des entreprises un peu particulières que sont nos institutions lyriques.
Mais écoutez, merci beaucoup Alain Suran d'avoir été à notre micro à bord du pédalo sur les ondes de Campus.
Merci.
Et voilà, comme on vient de l'annoncer dans l'interview, Alain Suran va pas tarder à prendre sa retraite. Un grand merci à lui pour sa bienveillance avec tous les membres de Radio Campus Angers qui ont pu se succéder pour faire ces interviews au fil des ans. Évidemment, on va de nouveau discuter avec lui pour faire peut-être un bilan de ces années passées à la tête d'Angers Nantes Opéra. Alors ça y est, entre-temps, nous avons eu le nom de la personne qui le remplacera. Il s'agit d'Alexandra Lacroix, qui dirige depuis 2007 la compagnie d'art lyrique de l'Opéra. Donc nous lui souhaitons évidemment bienvenue à la direction d'Angers Nantes Opéra. On va se laisser en musique. Vous l'avez peut-être entendu dans l'interview, mais il va y avoir La Flûte Enchantée la saison prochaine à Angers Nantes Opéra. À Angers, c'est les 16 juin et 18 juin 2025, donc dans un peu moins d'un an, donc vous avez le temps, chers auditeurs de Campus Angers, mais tardez pas trop parce que je crois que ça va être les billets vont être mis en vente à partir de septembre-octobre. Il y a que deux dates, les 16 juin et 18 juin 2025, ça va partir assez vite. Et comme un petit avant-goût de ces représentations, on va vous faire écouter un extrait de La Flûte Enchantée, un opéra de Mozart, l'air de la Reine de la Nuit, sur Radio Campus Angers. À tout de suite. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve mardi à bord du Pédalo. Alors d'ici là, on vous souhaite une très très bonne soirée sur le 103 FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.